Les discussions du soir. Les discussions du soir. Chaque lundi, Frédéric Vorm se pose son regard de philosophe sur les grandes problématiques qui s'imposent à notre société.
Ce soir, je reçois Hélène Leuillet, philosophe à l'université Paris-Sorbonne et psychanalyste. Bonsoir Hélène Leuillet.
Bonsoir Frédéric Vorms.
Je suis ravi de vous recevoir ce soir pour cette discussion. Comme je vous ai introduite il y a un instant, j'ai rappelé que vous étiez à la fois philosophe et psychanalyste, que d'un côté vous enseignez la philosophie à l'université de Paris 4 et que de l'autre côté vous pratiquez la psychanalyse. Et comme je voudrais comprendre, au fond, ce qui anime votre travail des deux côtés dans le rapport à l'actualité qui nous mobilise tous, c'est un peu le fil rouge de cette discussion du soir. Comment est-ce que vous décririez ces deux rapports au monde, et ces deux rapports aux autres, et ces deux rapports à l'actualité, d'abord en tant que philosophe, enseignant la philosophie, et d'autre part en tant que psychanalyste? Est-ce que pour vous, ils ont un lien? Est-ce qu'ils sont inséparables? Ou bien est-ce qu'ils sont distincts, cloisonnés, séparés? Comment est-ce qu'ils voisinent dans votre pratique?
Oui, c'est effectivement une question assez centrale. Je vous remercie de me la poser, Frédéric Vorms. C'est... Pour moi, déjà, dans mon itinéraire, les deux ont toujours été liés l'un à l'autre.
Vous avez étudié la psychanalyse en même temps que vous faisiez vos études de philosophie?
Je me souviens même avant cela de la découverte, du choc de lecture quand j'étais lycéenne, je crois avant la terminale. Choc de lecture de Descartes, d'Aristote et en même temps de Freud. Je ne sais pas, il y a eu des vacances comme ça où j'ai lu ça. Et alors, le choc de Freud... Et en même temps, la décision immédiate, quand j'ai lu des textes de philosophie, Sartre, bien sûr, à l'époque, même si c'est plus du tout un auteur que je lis et je travaille, mais il a beaucoup compté dans ma décision de faire de la philosophie. Et donc, pour moi, les deux ont été liés comme des chocs de lecture qui ont été évidents. Ensuite, vous avez raison, dans mon itinéraire, les deux se sont séparés. C'est-à-dire que, bien sûr, j'ai fait une analyse, mais j'avais fait d'abord de la philosophie. Et dans mes premiers travaux, la présence de la philosophie n'est pas très visible. Au demeurant, moi, je sais qu'elle
la
est...
La présence de la philosophie ou la présence de la psychanalyse?
La psychanalyse, vous voyez,
la voilà
c'est lapsus, prouve
par,
bien
par derrière,
que voilà, le voisin
voyez.
Arrive par derrière. Parce que, je veux dire, les deux, pour moi, sont tellement liés, vous voyez, que ce lapsus est révélateur. Mais je comprends que pour un lecteur, ce ne soit pas évident. Parce que la présence de la psychanalyse, elle est dans la démarche. Déjà, si je n'avais pas reçu les leçons de la psychanalyse, hein, j'aurais probablement fait une thèse beaucoup plus académique que celle que j'ai faite, donc sur la police.
Oui, je rappelle, ouais. Hélène Leuillet, votre premier travail personnel, universitaire, publié, oui. Un livre important sur la police, haute politique, basse police, si je ne me trompe
oui,
pas
ça,
du,
oui,
du
oui.
titre. Ce travail donc, était déjà très original dans son objet, mais et donc supposait un certain courage dans l'institution aussi, c'est-à-dire prendre un objet comme la police comme objet. Ce que vous dites, c'est que la psychanalyse vous y a aidé.
Voilà, la psychanalyse, d'abord, ça rend courageux, une psychanalyse, et puis
c'est
ça
important
oblige...
de le rappeler, parce qu'il oui. faut du courage pour en faire une peut-être,
ouais,
et, du,
ouais,
et ça donne du courage pour la suite. C'est même un critère peut-être de son sens, le fait que ça ôte en tout cas des obstacles au courage, disons.
Tout à fait, parce qu'on découvre des choses sur soi dans une analyse qui n'était pas prévue. C'est-à-dire que souvent on vient en analyse avec une demande très précise, et puis on se rend compte qu'en fait ce qui se passe, c'est pas du tout ce qu'on croyait, et ce qu'on découvre de soi, c'est pas ce qu'on croyait. Et ça rend quand même considérablement courageux, parce que évidemment la difficulté qu'on a dû surmonter pour se trouver ainsi face à soi-même fait qu'il y a beaucoup d'obstacles, dont des obstacles académiques qui paraissent pas grand-chose à côté de ces
obstacles intérieurs.
On y va, hein, je veux dire, d'aller au bout de soi-même, c'est déjà un challenge. Et donc il y a ça, il y a le fait aussi de se laisser traverser par des questions. d'accepter de se laisser de traverser par les questions auxquelles on n'a pas de réponse. C'est-à-dire que souvent, le critère académique, quand on entreprend un travail, c'est d'aller là où on sait qu'on peut réussir. La psychanalyse, elle nous apprend à aller là où on sait qu'on va être en difficulté, parce que c'est là qu'est intéressant, c'est là qu'est le désir, en fait, en quelque sorte. Et puis, à s'occuper aussi des choses de rien, des choses qu'on a tendance à laisser sous silence, des petites choses de la vie ordinaire, l'actualité, bref, tout ce qui cogne, tout ce qui nous fait mal aussi, un peu.
Mais alors, justement, ce qui cogne, Hélène Leyet, vous avez parlé du choc de Freud. Avant de revenir à l'actualité, vous venez d'en parler aussi, l'actualité, d'une certaine manière, c'est le réel qui revient par la fenêtre, par l'écran, par le monde, par toutes sortes de moyens. Vous avez parlé du choc de Freud, mais vous en avez parlé d'abord, au fond, au sens d'un choc de lecture, un peu comme Descartes ou Aristote. Et en même temps, vous êtes entré ensuite dans une pratique. Donc, c'est un choc double, c'est un contre-coup un peu différent. Descartes peut inciter à des pratiques, mais pas du même genre que Freud. Qu'est-ce qui vous a fait passer de l'effet, je dirais, de lecture à un autre effet de parole, à un autre engagement? Est-ce que c'est des événements dans une vie? Est-ce que c'est la lecture elle-même de Freud qui suffit à entraîner vers la pratique de la psychanalyse?
Oui, il y a eu Freud, il y a eu Lacan, hein, pour moi aussi, parce que j'ai fait une analyse lacanienne. Je dois dire que à partir du moment où je me suis décidée à montrer aussi que je travaillais avec la psychanalyse, finalement, la pratique est devenue pour moi une affaire de cohérence. Mmh. Parce que ce qui m'a frappé aussi, c'est la façon dont l'usage de la philosophie peut devenir seul, de la psychanalyse, vous voyez, je fais un lapsus, peut devenir, dans tous les sens, peut devenir complètement théorique, justement. Hein, on l'a vu dans la French Theory aux États-Unis. Ça devient théorique, ça peut devenir des jeux de langage. Alors que je crois que quand on fait une analyse, il y a d'abord un moment où on est un peu dopé à l'inconscient. Parce que l'inconscience, effectivement, c'est le réel de la subjectivité, et puis c'est une grande réserve de désir. Ce courage dont vous parliez, c'est aussi un élan. Donc ça dope, ça stimule. Et donc, quand on a un peu épuisé son propre inconscient, je dois dire que continuer avec celui des autres, ça ranime et ça ramène au réel. Vous savez, Frédéric Worm, vous savez comme nous, comme moi, comme nous tous, quelles sont les querelles de prestige, les face-à-face qui parfois pourrissent un peu la vie académique. Quand on sort de là et qu'on va écouter ses patients, je dois dire qu'on est ramené quand même au réel de la vie, à la mort, aux choses qui sont quand même vraiment importantes, qui sont vraiment risquées, sont plus graves que les enjeux de prestige. Et pour moi... je dois dire que c'est quelque chose, oui, qui m'aide à vivre et qui m'aide à penser.
Mais alors, au fond, Hélène Leyet, souvent aujourd'hui, on reproche à la certaine psychanalyse d'être théorique, d'être trop dans le discours sur sa pratique. Et d'un autre côté, on incite la philosophie à se rapprocher des manières de vivre, à se rapprocher de l'ordinaire, à se rapprocher de la vie quotidienne. La philosophie comme manière de vivre, c'était le mot d'ordre de Pierre Hadot, repris à la philosophie antique. Et donc, au fond, il y a une sorte de... Les deux peuvent se rejoindre aujourd'hui, face à l'urgence, justement, du monde, de retrouver l'expérience vivante, l'expérience vitale. Au fond, la philosophie cesse d'être purement une réflexion sur elle-même, sur son histoire, sur ses pratiques, rejoint les objets de la vie. Et la psychanalyse le fait aussi, mais il y a quand même une différence entre les deux. Je voudrais la creuser un petit peu, cette idée d'inconscient dont vous parliez. Est-ce que la philosophie le refoule? Est-ce que son problème, c'est quand même de croire que par le concept, par un discours cohérent, par un discours direct face à l'universel, sans le biais de la relation avec autrui, sans le risque de la relation avec autrui, on pourrait arriver à la vérité? Est-ce que la psychanalyse ne dit pas, au contraire, qu'il faut courir le risque de la relation?
Oui, vous avez raison. Enfin, ce que j'entends dans votre question, j'y adhère tout à fait, c'est qu'il y a quand même une division. Il y a une communication, il y a une division. Les deux ne peuvent pas être possibles complètement en même temps. Moi, ça ne me gêne pas dans l'exercice universitaire de faire valoir ce qu'est le concept philosophique, même s'il a une ambition de maîtrise, une ambition totalisante. Inévitablement, je crois que quand on enseigne la philosophie, il faut passer aussi par cette éthique académique qui forme nos étudiants. Et on ne peut pas pratiquer l'association libre, par exemple, dans un mémoire de maîtrise ou une une thèse de doctorat en philosophie, hein, pour bien, le dire comme ça.
J'espère bien que vous ne corrigez pas vos copies comme vous écoutez vos patients.
Exactement, exactement. Il y a des différences.
Sinon, je plains à la fois vos patients et vos élèves.
Exactement. Ce serait une sorte de confusion épouvantable. Nous sommes tous divisés. Moi, je suis divisée aussi entre la philosophie, qu'il est hors de question pour moi d'abandonner, et la psychanalyse. Je sais que parfois, les psychanalystes sont très exigeants et demandent aux philosophes de faire amende honorable, d'abandonner la philosophie. Moi, j'assume la division de mon désir. J'aime les deux dans leurs différences. Mais je crois que la philosophie doit pouvoir se laisser pénétrer par ce que nous apporte la psychanalyse. Vous donnez deux exemples, partir des problèmes, des vrais problèmes, et puis ne pas négliger la vie ordinaire, etc. Je pense que la philosophie peut admettre ça, tout en restant la philosophie. Et quant à moi, modestement, j'essaye d'inventer un discours. Je le fais comme je peux, hein, voilà, parce que ça, par ailleurs, mon énonciation à moi, elle peut être que la mienne. Hein, elle peut pas, ça peut pas être une recette. Ça peut pas être. J'essaye simplement d'être au plus près de des questions qui, moi, me traversent, hein, qui sont des questions... je crois que quand on fait... Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, Frédéric Worms, dans votre itinéraire, mais je crois que quand on voue sa vie à la philosophie politique et éthique, à la pensée politique, hein, on a des exemples dans l'histoire ou dans les collègues, c'est quand même qu'on a su très tôt, dans l'enfance... Parce que les grandes questions, elles se forgent dans l'enfance quand même.
Vous le dites aussi dans votre livre récent sur le voisinage, qui est voilà. Les expériences de l'enfance. On va y revenir, Hélène Leuillet.
Voilà, c'est ça. Il y a des expériences de l'enfance. Et je crois que pour la politique, il se trouve que pour certains d'entre nous, on comprend très tôt que ce qui se passe dans la vie politique, publique, ça a des enjeux privés. C'est-à-dire que notre vie privée, elle est aussi dépendante de ce qui se passe au niveau de la cité. Que peut-être beaucoup de gens apprennent plus tard, voire n'apprennent jamais. Mmh. Ont cette illusion que la vie privée suffit, que c'est vrai. Et puis, certains événements de la vie font que pour certains d'entre nous, on comprend très tôt. Enfin, c'est-à-dire, le réel rentre par la fenêtre. La famille est pénétrée par le politique. Mmh. En général, c'est un peu des dangers dont il s'agit. Et là, on sait que le politique, c'est vital, quoi.
Le politique, c'est vital, ouais. Il y a des dangers. Hélène Leuillet, moi, ce qui me frappe, c'est effectivement l'idée que la philosophie et la psychanalyse sont deux ressources, chacune dans son genre, face au même ébranlement, quelque chose qui nous ébranle. Et là, nous avons tout à coup du langage qui surgit. D'ailleurs, dès qu'on est ébranlé, on s'exclame. Et puis, il y a deux ressources, finalement, Hélène Leuillet. C'est d'un côté, essayer de penser ce qui se produit, produire un concept. Finalement, même la guerre, la terreur, c'est déjà des concepts.
C'est ça.
Même la haine est un concept, finalement, et permet de comprendre, permet de penser ce qui se passe. Et puis d'un autre côté, on est quand même affecté d'une manière subjective, qu'on ne peut pas entièrement théoriser, qui a besoin de la parole de l'autre pour être exprimée, qui a besoin de l'écoute. Et là, donc, la psychanalyse est une autre ressource. Donc ce croisement des ressources, je crois qu'en effet qu'il est vital, mais il pourrait être vital pour la maladie physique, pour tous les ébranlements. Pourquoi est-ce que pour vous, les premiers dangers qui suscitent ces deux ressources sont politiques? Enfin, les premiers que vous évoquez, ce qui fait que vous n'êtes pas seulement philosophe, mais philosophe politique, que vous êtes certes psychanalyste, mais avec une attention aussi aux effets de l'inconscient dans la cité.
Oui.
Qu'est-ce qui fait que le politique vient en premier dans ces dangers qui imposent ces deux ressources?
Ça tient à ma vie propre, ça. Je ne sais pas si ça peut s'évoquer ici, dans cette discussion.
Il faut évoquer ce que vous avez envie d'évoquer.
Disons que pour
personne
moi...
Personne ne vous force, mais personne ne vous retient.
Les questions de la coexistence humaine ont été quand même les conditions de ma naissance dans la fin de l'Algérie coloniale, dans la fin de la guerre d'Algérie. Il se trouve que j'ai été, par les conditions de ma naissance, confrontée à ces événements qui m'ont amené aussi à réfléchir à la terreur. J'ai été prise dans un attentat à l'âge de 2 ans.
À l'âge de 2 ans, vous avez été prise dans un attentat.
J'ai eu d'autres événements qui concernent le voisinage. Parce que j'ai eu, adulte, des problèmes de voisinage. Et comme philosophe, je sais qu'il faut quand même réfléchir sur ces questions de voisinage, qu'elles sont très importantes, que ce sont des vraies questions philosophiques. Et en fait, dans mon enfance, Dans cette Algérie où les voisins pouvaient être ennemis le jour, parce que n'étant pas dans le même camp, Eh bien,
ennemi le jour et quoi la nuit.
Et ami la nuit.
Et ami la nuit, on aurait peut-être dit l'inverse.
La nuit. Voilà, quand même. Ce qui est curieux, c'est que j'ai retenu aussi de mon enfance, qui sont des. Ma mère, héroïquement, une nuit, était emmenée un enfant blessé par un tir à l'hôpital. Me confiant à des voisins qui étaient des voisins qui pouvaient être considérés comme du camp ennemi.
Mais ce
et vous
curieux...
voyez l'échange de services, la vie sauvée d'un enfant, l'héroïsme, la confiance de laisser son bébé. Enfin, je veux dire, ce sont des choses qui sont vraiment centrales dans la coexistence humaine.
Les deux visages de la relation humaine. Mais,
tout à fait.
Mais Hélène Leyer, quand vous dites, ça m'a beaucoup frappé là ce que vous venez de dire, ennemi le jour et ami la nuit, spontanément l'image que je me fais de la même situation, c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire une amitié du jour, voisinage soit apparemment paisible, et puis la trahison la nuit, le même c'est voisin ça. Qui vient frapper à la porte tout à coup parce qu'il vous a dénoncé, ou la police qui... Mais vous dites plutôt l'inverse, ennemi le jour, parce que la guerre était déclarée à ce moment-là, un peu dans la...
Oui,
et l'amitié clandestine,
la
les liens humains qui persistent souterrainement. Au fond, c'est la même chose, mais c'est deux manières de deux expériences de la même dualité.
Et il y a les deux.
Mais il y a le jour et la nuit de toute façon.
Il y a le jour et la nuit de toute façon. Et c'est ça que j'ai essayé de théoriser par la différence entre les voisins d'en face, les voisins d'à côté, les voisins du dessus, les voisins du dessous. C'est que le face-à-face, c'est de mon point de vue ceux-là qui est responsable des massacres que vous évoquez, des trahisons, des dénonciations. Là, effectivement, a mis le jour l'hypocrisie. Et puis, la nuit, on se permet effectivement toutes sortes de choses opaques, voire on se massacre. Mmh. Et donc, je donne quelques exemples. Celui analysé par
les voisins,
Jan Gross,
le livre de Jan
Gross, voisins,
qui est l'historien de la Shoah en Pologne, qui a montré comment le crime pouvait venir des voisins d'en face, précisément.
Exactement. C'est-à-dire que les Juifs de Tchevdan, enfermés dans une église auquel on a mis le feu, ont vu leur meurtrier qui ? Ses voisins. Ses voisins, avec, de qui ils étaient amis, des relations d'entraide. On se tutoyait, etc. Les voisins les plus familiers, ça s'est reproduit au Rwanda. Et donc les massacres...
En Bosnie, au Rwanda.
En Bosnie, exactement.
Et parfois l'inverse, effectivement, le
et
voisin qui maintient le lien là où on lui ordonne.
Voilà.
Alors, vous êtes arrivé à votre livre, on reviendra sur la psychanalyse dans un instant. J'aimerais beaucoup comprendre comment, selon vous, de même que la guerre d'Algérie a fait irruption dans votre enfance, comment est-ce qu'aujourd'hui les événements que nous vivons font irruption dans l'inconscient de nos concitoyens, dans nos vies à nous. Mais alors... disons un mot de votre livre sur le voisinage, votre dernier livre, Hélène Leyer, du Réflexion sur la coexistence humaine. On s'aperçoit que ça, c'est pas un titre d'éditeur, ça vient de très très loin dans votre vie. Ce qui m'a frappé, c'est que vous distinguez quatre types de voisinage. Déjà, en le structurant spatialement et symboliquement, ce qui fait que le voisinage n'est pas une fusion ni une distance abstraite, mais pour vous déjà du symbolique, on pourrait dire, des repères dans l'espace. Il y a le voisinage d'en face... Premier voisinage. À la fin, il y a le voisinage d'à côté. Et en quelque sorte, pour passer de l'un à l'autre, il y a le voisinage d'en haut et d'en bas. Enfin, je l'ai lu un peu comme ça. Parce que on pourrait dire, au fond, en face et à côté, c'est pareil. Mais pour vous, c'est le contraire, presque. C'est-à-dire qu'en face, pourquoi est-ce que l'en face serait du côté de la guerre et à côté, du côté de la possibilité de la paix, disons, sans trop d'optimisme? Parce que je sais que vous résistez à l'optimisme, Hélène Leyer.
Oui, mais je ne veux pas non plus être décliniste et penser qu'il n'y a pas de possibilité
Vous êtes bien pire que décliniste. Vous ne pensez pas qu'il y a un déclin conjoncturel. Vous pensez qu'il y a du négatif structurel.
Pour
vous, le déclinisme, c'est superficiel.
Je pense qu'il y a une pulsion de destruction à l'œuvre, toujours dans l'humanité, qu'il faut en être averti pour ne pas risquer de se leurrer trop sur les possibilités, justement, savoir ce qu'on peut demander à l'autre et ce qu'on ne peut pas lui demander. Je crois que dans le face-à-face, il y a trop de demandes. Dans le face-à-face,
alors, c'est quoi le problème du face-à-face? Parce
qu'il
y a des philosophes qui ont idéalisé le face-à-face. C'est Emmanuel Lévinas, un grand penseur du face-à-face. Il disait au contraire, le face-à-face, c'est ce qui nous fait sortir de l'utilité, de la coexistence matérielle, c'est ce qui est de la transcendance de l'autre.
Absolument.
Et pour vous, pas du tout.
Pas absolument. Moi, je suis absolument anti-lévinassienne de ce point de vue. Enfin, je ne dis pas que Lévinas, évidemment, est un grand penseur.
Non, quand on dit anti, c'est philosophique.
C'est
de la controverse.
C'est que c'est pas pour moi, l'éthique ne peut pas être de l'ordre du face-à-face. Parce que ce qu'on demande à l'autre dans le face-à-face, c'est deux choses contradictoires. Sois comme moi et ne sois surtout pas comme moi. Sois comme moi parce que je suis la norme. Donc c'est tous les cancans aussi, les ragots des villages.
Oui, je suis le bon citoyen, le bon
modèle de vie aussi.
Mon jardin
moi, je
est tendu.
Comment
mes rideaux sont tirés.
Comment est-ce qu'on peut être l'autre? Ouais. Hein, comment est-ce que l'autre peut être l'autre? C'est pas possible.
Il exagère quand même.
Hein, pourquoi est-ce qu'il n'est pas comme moi? Ouais. Mais en même temps, si l'autre s'avise à être comme moi. Mais ça va pas du tout non plus.
C'est insupportable aussi.
Mais c'est insupportable. Comment se permet-il? Et d'ailleurs, je vais lui trouver une petite différence. Mais une petite différence qui sera très très grave et qui suscitera la haine. Donc ça tourne en boucle, comme ça.
Oui, mais Hélène Loyer, pourquoi ça c'est le face-à-face et pas le à côté? Parce que c'est quand on regarde l'autre droit dans les yeux, c'est insupportable finalement.
C'est surtout que ce que je veux dire, c'est que c'est un rapport uniquement imaginaire, uniquement spéculaire. C'est-à-dire que ça passe par le regard.
D'accord.
Le face-à-face, c'est le rapport à l'autre qui passe par le regard. Vous insistiez tout à l'heure, à juste titre, sur l'importance du langage. Devant ce choc du réel, qu'est-ce qu'on peut? On peut soit être écrasé par le trauma, ne plus pouvoir rien dire, être envahi, etc.
Le réel, au fond, c'est ce qui envahit notre construction, qui nous permet d'y résister. C'est quand notre protection a cédé, finalement.
Voilà, c'est ça. C'est qu'on n'a rien pour symboliser. On n'a rien pour symboliser le réel. Le premier moment du symbolique, c'est le langage. Hein. C'est par le langage qu'on symbolise notre expérience.
Qu'on lui donne du sens, finalement.
Voilà, qu'on lui donne du sens. Mais il y a des moments où, aussi, hors trauma, on est sidéré. On est captivé et où les mots nous manquent aussi parce que le rapport ne peut plus être qu'imaginaire. Vous savez, quand je me rends compte que l'autre a des voisins plus beaux que moi, je peux être le plus grand philosophe du monde. J'ai plagié Pascal, le plus grand philosophe du monde entre les tours de Notre-Dame, sera pris de vertige alors même qu'il sait qu'il ne risque rien. Mais le plus grand philosophe du monde, si le voisin d'en face a des volets plus beaux que les siens et des enfants plus polis et rentre plus bronzé de vacances ou que sais-je, eh bien le plus grand philosophe du monde serait un fou de rage. Vous avez tout à fait raison, Frédéric Von. Il faut le voir comme ça. Mais le rapport spéculaire à l'autre nous rend fous, nous rend bêtes surtout, et peut nous rendre méchants et haineux. Ouais.
Mais alors, Hélène Loyer, pour se parler, il faut être un peu de biais, un peu à côté, comme on est dans ce studio aussi, on se regarde quand même, on est un peu face à face quand même.
Absolument.
Pour se parler, il faut quand même échanger des regards.
Absolument.
Et donc, mais en même temps, pas être dans la pure contemplation de l'autre comme un miroir, au fond, à la fois fascinant et insupportable.
C'est ça, parce que cette espèce de cercle fou et débile dont je parlais, c'est quelque chose qui se dispense de la différence de place. Dans l'à côté, vous voyez, on a chacun notre place. C'est-à-dire que, du coup, on peut se regarder parce qu'effectivement, on sent bien qu'on n'est pas à la même place. Vous voyez, on a chacun notre espace pour mettre nos papiers, nos carnets.
Oui, on n'est pas des rivaux pour le centre du monde.
Voilà, c'est ça. On n'est pas pris dans un rapport de miroir. Hein. Et évidemment, ce sont des métaphores aussi, parce qu'on peut être face à face et puis, en fait, avoir une relation d'à côté, ne pas être mimétique en miroir. Je crois pas que le désir soit seulement mimétique dans le rapport à l'autre, mais le mimétisme, il est vraiment favorisé par le face-à-face, tandis que l'à côté, vous voyez, c'est ce qui nous permet aussi une liberté de regard, une liberté de geste. On n'est pas pris, on n'est pas captivé par l'autre, et c'est là que la parole est possible, parce que il y a une condition pour que la parole soit possible, c'est qu'il y ait une disparité des places. Et c'est qu'on soit à peu près d'accord sur un pacte minimal, c'est qu'on ne va pas se prendre la place l'un de l'autre, mais, et qu'on on prend chacun notre place dans la parole.
Hélène Lehier.
Frédéric Worms.
C'est vous qui avez choisi cet extrait d'Offenbach, de la vie parisienne, pour illustrer avant tout, m'avez-vous dit, l'une des thèses de votre livre sur le voisinage, qui nous amène ce soir à des questions plus générales encore. Mais cette thèse, c'est l'idée que finalement, la vie urbaine, la vie parisienne, peut être non pas une guerre de voisinage, mais une intensité heureuse, un peu comme dans cette musique qui est très heureuse, mais aussi très intense. Il faut qu'il se passe des choses, il faut qu'elle soit un peu active, cette vie parisienne, ce voisinage urbain. C'est pas forcément non plus le rêve d'un voisinage à distance, dans une campagne un peu mythique. Vous acceptez aussi la coexistence, la multitude, l'urbain.
Absolument, absolument. De toute façon, nous n'avons pas le choix, parce que même dans les campagnes, la vie urbanisée a posé sa norme. La différence ville-campagne, aujourd'hui, elle tend à diminuer, alors même que les campagnes s'isolent, se désertifient. Il y a néanmoins une urbanisation des modes de vie. Et cette musique me fait penser à ce que dit Simmel sur la sensorialité du voisinage.
Le sociologue allemand, contemporain de Bergson. Freud, d'ailleurs.
Et Freud aussi. Et qui est extrêmement important, me semble-t-il, pour penser comment la proximité, qui est aujourd'hui la loi du monde, enfin je veux dire en raison de l'augmentation de la population mondiale, n'est pas nécessairement la promiscuité. Et Simmel essaye de penser là ce rapport du lointain et du proche, le rapport à l'ailleurs dans le proche, l'apport de l'étranger, enfin tout ça est théorisé par Simmel, qui parle aussi de l'intensification nerveuse de la vie en ville. Et cette musique d'Offenbach me semble tout à fait emblématique de cette intensification nerveuse, qui en même temps n'est pas irénique, parce que comme vous le disiez, effectivement, je pense que les deux bords de l'humain sont toujours là. Et cette musique, surtout dans l'adaptation de la reprise par Rosenthal dans la Gaieté parisienne, donc 30 ans après, c'est quelque chose qui encadre Simmel, donc Offenbach, la vie parisienne un peu avant Simmel, Rosenthal qui reprend Offenbach un peu après Simmel. Et il y a aussi quelque chose de dur là dans cette interprétation-là, qui nous rappelle que c'est dur aussi et que ça ne va pas de soi. La coexistence humaine.
Alors la Gaieté parisienne, Hélène Lehier, ça fait irrésistiblement penser au moment des attentats du 13 novembre. Il y a un texte qui est revenu comme un emblème. C'était « Paris est une fête » d'Hemingway. La Gaieté parisienne, elle peut susciter aussi du refus, de la haine. Comment est-ce que vous interprétez le refus de cette gaieté, la violence qui s'exerce aussi contre cette gaieté, même s'il ne faut pas la réduire à... Elle vise plusieurs dimensions du monde, le politique et autres. Mais comment est-ce que vous interprétez le refus de cette gaieté? Est-ce que c'est cette pulsion sombre dont vous parlez aussi dans ce livre comme dans vos livres précédents, dont un sur le terrorisme, justement?
Tout à fait, vous avez raison. Dans mon choix, il y a bien entendu aussi cette résonance-là, qui a été important pour nous de défendre aussi cette gaieté parisienne, qui est attaqué pour des raisons que j'avais déjà en 2009 essayé de comprendre dans ce livre sur la terreur, la haine que ça peut provoquer.
Les origines du terrorisme.
Oui, c'est ça, les tout à fait, aux sources du terrorisme. C'est vraiment ça.
Parce que je l'avais comparé, je m'en souviens, aux origines du totalitarisme d'Anna Arendt, qui était l'une de vos références.
Absolument, c'est ce que vous m'aviez dit, et effectivement c'est de ça, puisqu'il y a quelque chose de totalitaire aussi dans cette idéologie. Donc bien entendu, il y a des attaques peuvent aussi répondre, comme vous le dites à l'instant, à des raisons géopolitiques, mais il y a quelque chose là d'impulsion, de destruction et d'une difficulté à envisager la coexistence au niveau de l'humanité, qui malheureusement est aussi une des causes de l'attraction de cette idéologie. C'est-à-dire que inévitablement dans l'humanité surgit brutalement le souhait de régler les questions de coexistence de manière assez radicale, c'est-à-dire par l'élimination des autres.
C'est supposé régler le problème.
C'est vrai que dans une
de
certaine
soi, finalement, en éliminant l'autre, on croit qu'on va régler son problème à soi.
Absolument.
Alors qu'en fait, on aggrave les deux finalement.
Exactement. On est déjà dans une logique spéculaire. Vous savez, du point de vue djihadiste, de toute façon, comment est-ce que ça se justifie ? Par l'idolâtrie. Hein. D'ailleurs, le communiqué...
Vous voulez dire l'attentat vient punir une supposée idolâtrie ?
Absolument. C'est tout à fait thématisé comme ça, c'est dit comme ça.
Comment est-ce que vous interprétez ça, alors ?
Comme du spéculaire. Hein. Là, on est vraiment dans la haine spéculaire. Hein. C'est-à-dire que ce qui prévaut, là, c'est un rapport de face à face. Hein. Le djihadisme se met dans un rapport avec un Occident supposé, dans un rapport de face à face.
C'est-à-dire, est-ce que vous pouvez être plus précis ? C'est-à-dire, le spéculaire, c'est-à-dire l'autre devient ce qu'on rejette absolument, quelque chose qu'on diabolise
dans le miroir. C'est le voisin d'en face. Mm-hmm. C'est le voisin d'en face. D'ailleurs, le terrorisme, c'est aussi une guerre de voisinage. Hein. C'est bien ça le problème. Il n'y a plus de champ de bataille dans cette nouvelle guerre. Mais les voisins sont là parmi nous. D'ailleurs, quand on arrête un jeune djihadiste, la première chose que font les journalistes, très spontanément, ils ont
raison. Ils vont interroger les voisins.
Et, voilà, et qui disent... c'est un gentil garçon, on n'a pas compris, etc.
Ils étaient à côté, eux vivaient comme un
Exactement.
Voisinage heureux,
voilà.
Un voisinage d'à côté,
Absolument.
Et lui les voyait comme des ennemis en face.
Voilà, comme des voisins d'en face. Et là, dans ce rapport spéculaire, voilà, qui concerne, c'était aussi le copain de classe, etc. Donc la rivalité, le face-à-face. Et ce face-à-face, c'est aussi à un niveau autre, le face-à-face Orient-Occident, qui sont des constructions.
Donc le jeu du face-à-face, c'est forcément la violence.
C'est forcément la violence. Au bout d'un moment, il y a évidemment des captations imaginaires qui sont moins violentes, qui peuvent être plaisantes, qui peuvent prêter au fantasme. Il y a toujours deux bords. Mais en tout cas, c'est un jeu dangereux qui peut toujours se renverser. Nous sommes tous pris là-dedans aussi. Hein. Il faut savoir que, bien entendu, du mimétisme, il y en a. Mais néanmoins, il faut savoir de quel danger il est lourd, ce mimétisme.
Je comprends, Hélène Leuillet, comment vous interprétez la violence, y compris terroriste, et le voisinage lui-même, à travers de la psychanalyse, qui permet de penser ces types de relations. Pourquoi le face-à-face engendre de la violence, alors que la latéralité indirecte, l'indirect engendre la coexistence. Mais la question que je voulais vous poser, c'est la question aussi inverse. C'est-à-dire, au fond, dans la relation psychanalytique, d'abord, comment se produit ce biais, cet indirect, cet à côté qui permet aussi de se retrouver soi-même, non pas dans un face-à-face, mais un rapport de voisinage heureux avec soi-même. Et puis aussi, dans votre propre pratique de psychanalyste, comment est-ce que vous voyez revenir cette violence politique aujourd'hui ? Vous l'avez évoqué pour votre propre expérience personnelle, mais aujourd'hui, dans l'expérience de nous tous, l'un des effets de cette violence politique, c'est d'envahir nos inconscients, d'envahir nos vies, de nous hanter. Comment est-ce que vous le voyez revenir ? Comment est-ce que vous luttez contre ce retour ?
Oui, alors effectivement, ça, ce sont deux questions tout à fait importantes là, que vous soulevez, Frédéric Worms. À la première, je répondrais que finalement, l'à côté engage la dimension du tiers.
D'accord.
Pas le face-à-face.
Et dans la psychanalyse,
c'est
important. Et
dans la psychanalyse, on dit souvent, vous savez, dans la scène analytique, on n'est pas deux, on est trois.
Alors dites-nous, décrivez-nous les personnages.
Le patient, l'analyste, et puis il y a le langage. Ce qui se dit à un autre... qui n'est pas là comme justement nous sommes dans cette conversation, même si parfois dans les moments qu'on dit de face à face, on peut donner comme ça le sentiment qu'on est dans un rapport duel. C'est jamais le cas en vérité, parce que l'analyste, il n'est pas là engagé comme personne particulière, mais il s'est servi de son inconscient pour là essayer de renvoyer à celui qui parle, ce qui peut l'aider à revenir à son propre désir inconscient à lui. Et donc, en vérité, vous voyez ça déjà, c'est une dimension tierce.
C'est ça, donc l'idée, quand on dit on va voir le psychanalyste, finalement on se trompe, parce que c'est pas l'idée de le voir, c'est plutôt l'idée de lui parler.
C'est ça.
Et qu'entre les deux, il y a plutôt des expressions qui vont permettre un passage indirect avec l'autre et un retour à ses propres questions. Finalement.
Voilà, tout à fait. Et c'est d'ailleurs du coup ainsi que je répondrai à votre deuxième question. C'est-à-dire que comment Est-ce qu'on s'arrange de la violence? Bien sûr, cette violence, elle nous traverse. Moi, mon cabinet, vous savez, se trouve dans le 11e arrondissement, à côté du Bataclan. Donc, évidemment, le samedi 14 novembre, je suis allée d'abord au rendez-vous avec mes patients, qui sont venus, pour la plupart d'entre eux, alors même que le quartier était bouclé. Et bon, toute la semaine, les patients étaient traversés, évidemment. Mais par le jeu de la parole, eh bien, ils sont ramenés, et à ma grande surprise, ça avait résonné de manière subjective pour chacun d'entre eux. C'est-à-dire qu'il y a à la fois toujours une sorte de culpabilité de parler de soi, on se sent obligé de parler des affaires de la cité, mais en même temps, la façon dont on en parle, c'est la façon dont ça a résonné pour soi-même. Je parle là hors traumatisme, c'est autre chose pour ceux qui étaient dans l'événement, qui ont pu être traumatisés, mais pour ceux là qui ont reçu l'événement,
qui ont
traversé...
Ceux pour qui le choc était indirect, était
voilà, qui n'a pas aboli le langage, etc., mais qui était quand même bouleversé. Enfin, je veux dire, traumatisé et bouleversé, c'est pas la même chose. On les confond parfois, mais c'est pas tout à fait la même chose. Traumatisé, c'est écrasé, ne plus pouvoir parler, ne plus pouvoir se défaire. Bon.
Et bouleversé, au contraire, c'est être débordé de langage.
Voilà, c'est ça. Avoir besoin d'en parler. Et... Mais on se rend compte que pour chacun d'entre nous, la chose résonne. Alors, il y a des constantes. Il y a des constantes, un très grand sentiment de solitude, même si on est, entouré. Une forme de sentiment de quelque chose d'explosif en soi-même, etc. Bon, il y a des constantes, mais quand même, chacun le vit à sa manière, et avec ses propres fantasmes. Et du coup, ça ramène à soi-même. C'est ça, la grande éthique de la psychanalyse, c'est que, bon, on est ramené ainsi à son propre désir qui n'exclut pas l'autre, et ce qui nous donne aussi... en quelque sorte, une leçon de coexistence. La deuxième chose qui peut-être paraît latérale par rapport à votre question, mais qui est un enjeu important qui m'a aussi conduit au voisinage, c'est que nous avons des vies en quelque sorte numérisées de plus en plus. Et combien d'entre nous sont tentés par la relation numérique, qui est vraiment commode, parce que c'est sûr que c'est quand même très sympa de pouvoir communiquer avec ses amis qui habitent à l'autre bout du monde, et quand on est soi-même en voyage, de pouvoir rester en contact avec ses proches. Mais il y a néanmoins une vie numérisée qui parfois vient faire obstacle à la rencontre. Ouais. Je dirais finalement, le psychanalyste, on va rencontrer un psychanalyste. Il y a quelque chose de la rencontre
qui est
essentiel, voilà, dans la coexistence, et qui passe par le corps. Le voisinage, je me suis dit, ça s'est imposé à moi comme question parce que c'est un corps à corps. Parce que on peut essayer de fuir les contacts, mais avec ses voisins, on a des contacts, qu'on le veuille ou pas. Par l'ouïe, par la vue, par la parole. Ouais.
Mais justement, Hélène Loyer, votre livre sur le voisinage entre vraiment aussi dans ce double jeu contemporain où d'un côté il y a le global, la mondialisation, Internet, et de l'autre côté un retour au local, au corps, à l'expérience concrète, à la fois pour y répondre à cette désappropriation par la mondialisation, la numérisation, mais aussi pour s'ancrer dans le monde vivant. Mais je voulais revenir encore une dernière fois sur ce que nous apprend aujourd'hui la parole dans la relation psychanalytique. Il y a du constant dans le traumatisme politique. On peut imaginer que les attentats que vous avez vécus en Algérie, que la violence des régimes totalitaires avait quelque chose de commun avec ce qui se passe aujourd'hui. Il y avait un livre dont j'ai oublié l'auteur, sur les rêves sous Hitler.
Ah oui, Charlotte Bérard, voilà, c'est tout à fait
psychanalyste qui pratiquait à Berlin dans les années 30.
Oui.
Mais Hélène Loyer, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous diriez que la psychanalyse nous l'apprend sur ce qui se passe spécifiquement aujourd'hui? C'est-à-dire pas seulement sur le politique en général, sur l'inconscient en général, mais sur ce qui se passe aujourd'hui, en 2015-2016, disons, et que nous apprendrait la parole subjective.
Je crois qu'elle nous apprend beaucoup justement sur cette question de la coexistence.
De la coexistence pour vous, c'est
vraiment
ça,
pour moi, j'en suis là. Je ne serai peut-être plus là demain ou après-demain. Je veux dire, évidemment, nos questions.
Vos idées vont peut-être bouger.
Voilà,
elles l'ont fait, la police, le terrorisme, la coexistence.
C'est ça. Il y a aussi ce qu'on peut entendre. Vous savez, nous sommes tous limités par ce que nous pouvons entendre à un certain moment.
Pour vous, c'est comme ça que vous nommeriez la question cruciale d'aujourd'hui.
Oui, tout à fait, tout à fait. J'entends beaucoup parler du voisinage dans les cures.
Le plus ordinaire, le voisin d'au-dessus, justement, d'en dessous, d'à côté, d'en face.
Personnes qui sont obligées de déménager, qui déménagent à cause du voisinage, ça nous apprend que être chez soi, c'est aussi être chez l'autre, qu'on a besoin de l'autre pour se sentir chez soi, parce que l'autre peut nous amener à ne plus nous sentir chez nous, dans le lieu qu'on a fait pour soi, où on se sent bien, où on s'est installé. Cette question de l'installation, c'est la même que la question de la coexistence, et je l'entends aujourd'hui. Très importante.
Donc vous faites le lien, Hélène Loya, et c'est passionnant à mon avis, et même central, entre ces questions apparemment ordinaires, immédiates, du chez nous, chez l'autre, et les questions géopolitiques globales, la violence terroriste, oui. Les guerres qui reprennent. C'est vrai qu'on entend dans les discours qu'on dit populistes, un discours chacun chez soi.
C'est ça. C'est
nous
ça.
Sommes chez nous.
C'est ça.
L'invasion.
C'est ça.
Donc le discours de l'invasion, précisément, et non pas de l'accueil. Est-ce que c'est un symptômes
Tout à fait. Le discours de l'invasion et de l'accueil qui accompagne généralement d'ailleurs une certaine déception à l'égard de l'autorité politique, de tout ce qui peut faire tiers et donc une tentation du repli.
Tout ce qui peut faire médiation. Hélène
tout ce qui peut faire médiation, tout ce qui peut faire qu'il y a de la côté, de la coexistence. Tout ça aujourd'hui me paraît en péril. Tiens, alors vous avez raison de rappeler qu'il y a différentes échelles du voisinage. Parce que le voisinage au fond, c'est le lien entre deux choses. L'habitation, parce que c'est le voisinage, ça vient de vikinous en latin, qui vient de oikos, la maison, en grec. Ça, c'est le lien entre les maisons.
Entre les maisons, tout simplement.
Donc, le lieu de l'intime, le lieu où on dort, c'est-à-dire où on lâche prise, on ne se défend plus, le lieu de l'intime, le lieu
home,
des proches.
Le home, home, comme on dit
voilà,
en anglais.
C'est ça. Avec toute cette signification
toute cette portée, effectivement.
Voilà, d'intime. Et en même temps, c'est une ligne, la ligne de séparation entre les homes, hein, entre soi et l'autre. Le voisinage, c'est ça. Il y a le même et l'autre, le lieu de l'intime, mais il y a la ligne de séparation. Et donc, évidemment, il y a différentes échelles, il y a des états voisins, et on dit bien qu'on se sent voisin de ceux qui habitent les états voisins. Il y a les voisins de quartier, il y a les voisins de palier, etc. Mais il y a une constante, quand même, c'est qu'on doit parvenir à cette relation du même et de l'autre. Et aujourd'hui, cette montée des idéologies violentes dont vous parlez, on évoquait tout à l'heure les campagnes qui se désertifient. On voit apparaître des idéologies violentes, la montée du Front National, pour ne pas le nommer, dans les campagnes. C'est très bizarre, hein, parce que toutes les raisons prétendument objectives qu'on va chercher à la montée du FN, elles n'existent pas. Eh bien, on voit que c'est vraiment un voisinage qui oublie la dimension de l'autre. Les gens deviennent égocentrés. Vous verrez, ce sont les mêmes. Hein, ils sont égocentrés. Cette montée du narcissisme, donc du rapport de face à face, hein, il est lié à la montée de la violence. Et donc, au moment où se créent des ouvertures possibles dans le monde, c'est à ce moment-là que par égocentré, on se réfugie dans le face à face et que donc, des idéologies excluantes où on ne se rend pas compte qu'on se perd soi-même. À perdre l'autre, on se perd soi-même.
À perdre l'autre, on se perd soi-même. Magnifique formule dont je regrette seulement qu'elle doive être un peu la conclusion provisoire de notre discussion du soir. Je crois que vous avez prononcé le mot le plus important, finalement, qui est le mot relation. C'est-à-dire, au fond, une relation pas naïve, pas toute blanche. Il y a du jour, il y a la nuit, il y a la violence possible toujours dans cette relation, mais qui nous permet de sortir, je dirais, du face-à-face du soi et de l'autre, du face-à-face de l'individu et de la communauté aussi. L'individualisme ou le communautarisme, en fait, entre les deux, il y a des relations entre des parties de nous-mêmes, de nos identités, comme on dit, et de celles des autres. Et il faut donc poursuivre ces relations et plutôt admettre leur ambivalence qu'essayer d'être soit dans la haine tout entière, soit dans son contraire abstrait, qui serait aussi très violent. Hélène Loya, un dernier mot
pour, oui, tout pour à fait, parce que ça nous arrange. Si je rappelle toujours la violence qu'il y a en l'humain, c'est aussi pour nous ramener à nous-mêmes, à notre violence. Hein, c'est la première humanisation de la violence. Sinon, si on ne reconnaît pas sa propre violence, sa propre captation dans le face-à-face, sa propre jalousie, sa propre rivalité, qu'est-ce qu'on fait ? On se dit, le violent, le méchant, c'est l'autre. Et donc là, dans ce refus de l'autre, qui est en même temps un refus de soi, eh bien, on est tenté par l'exclusion, hein, le mauvais objet, ben, on a toutes les raisons de le détruire. Hein. Et donc, il vaut mieux reconnaître aussi la violence qu'on porte en soi. Ça humanise aussi les liens à l'autre.
Voilà, et ça permet de travailler non seulement à accepter l'autre, mais à s'accepter, à s'accueillir soi-même.
Absolument.
Et les uns les autres. Merci beaucoup, Hélène Loyer.
Merci, Frédéric Worms.
Au revoir. Au revoir. Les discussions du soir. Hélène Loyer, Cédric Chatelus, Claire Poinsignon. Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Vorms.